Vous écoutez l'épisode 44 du podcast Les Petits Plus Zen. On va parler aujourd'hui des routines et des habitudes. Je suis Séverine Feiss, je suis accompagnante à la parentalité après avoir été pendant 22 ans professeure des écoles en maternelle et plus. Et maintenant, j'ai à cœur de vous accompagner sur votre chemin de parent ou de professionnel à mieux comprendre les émotions des petits et des grands, à vous libérer du temps pour ce qui compte vraiment, et puis à apaiser votre vie de famille si c'est votre objectif principal. À travers différents outils, l'arc-en-ciel des besoins, la cheminée des émotions, le tequil et tout ce que vous allez découvrir au cours de ce podcast et sur Instagram, je vous invite à vraiment me poser des questions en DM, n'hésitez pas. Sur Clubhouse aussi, il y a une messagerie, donc demandez-moi si ce n'est pas clair dans un épisode, j'y répondrai avec grand plaisir. Aujourd'hui, le thème des routines, le thème des habitudes, m'a été demandé plusieurs fois sur des thèmes très différents comme le sommeil, l'alimentation, l'apprentissage ou aussi le rythme sur l'emploi du temps d'un enfant, notamment quand on parlait de la rentrée et du choix des activités périscolaires. Cette notion de routine et d'habitude, je vais déjà l'associer directement à un moyen de célébrer le potentiel de l'enfant et de l'accompagner dans sa construction du temps. Pour moi, l'objectif principal d'installer une routine à la maison ou en classe, d'installer une habitude, d'installer vraiment des automatismes, tout ça pour moi, c'est à la fois rendre hommage à tout ce qu'il est déjà capable de faire et à la fois l'aider à accompagner la construction du temps, donc sa construction du monde. On en a parlé beaucoup dans l'épisode de la semaine dernière sur comment il apprend à s'approprier les nouvelles notions et les nouvelles connaissances du monde. Et quand votre enfant était tout petit, ou quand on prend les très très jeunes élèves, on voit que spontanément, on met en place des gestes plutôt réguliers, plutôt habituels, plutôt dans un certain ordre qui nous paraît cohérent, que ce soit pour le change, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour le repas. Dans les premiers jours de vie, vous avez automatiquement fait le même ordre de gestes jusqu'à ce que la routine vous convienne, jusqu'à ce que l'ordonnement de chacun des gestes dans la bonne cohérence vous permette de vous dire « Bon, j'ai trouvé ce fonctionnement-là, ça va m'alléger mentalement de ne pas prendre la décision à chaque fois de où est la serviette, où est le bonnet, où est le gel douche. » Donc de préparer en fait, de créer le rituel avec tout le matériel nécessaire, avec tout le matériel à disposition pour aller dans l'ordre qui nous convient le mieux ou, si je le reformule autrement, pour nous permettre de faire cette activité en ayant le moins de conséquences désagréables, le moins d'imprévus possibles ou, pour aller dans notre cheminée des émotions que vous connaissez bien maintenant, pour avoir le moins d'éventualité de déclencher une flamme désagréable possible. Que ce soit des rituels que vous avez installés en classe ou que ce soit un rituel que vous avez installé pour le coucher, pour la sieste, pour la nuit, vous aviez eu comme intention d'aller vers une fluidité, vers une régularité qui permette à chacun des deux personnes, du coup, dans le cas présent, le parent et l'enfant, et à chacune des deux cheminées, d'aller vers une paix, vers une harmonie, vers un mieux-être, pour éviter les couacs, les clashs ou la désorganisation. Donc déjà, je tenais à ce qu'on se mette un peu d'accord sur la fonction principale d'une habitude, d'une routine ou d'un rituel, on l'appelle parfois ça aussi en classe. Ça sert à la fois la personne qui le vit et ça sert à la fois la personne qui l'organise. Il y a une sorte de donnant-donnant dans l'installation d'une routine et d'un rituel. On essaye de coopérer au mieux pour que les deux personnes aient un bénéfice à la fin de la routine, à la fin du rituel, avec cette petite notion supplémentaire d'optimiser le temps qu'on passe ensemble, que ce soit à la fois cohérent et à la fois utile dans les conséquences de notre vie. Ça peut être lié à nos habitudes de couple, ça peut être lié à nos habitudes de fonctionnement dans la maison, suivant le nombre de pièces qu'on a, suivant le matériel qu'on a, suivant les horaires qu'on a. Par exemple, la routine de dire tous les matins, c'est peut-être papa qui emmène à l'école parce que le matin, il part à cette heure-là. Et le soir, ça va être maman qui te ramène de l'école. Quelque part, dans la tête de l'enfant, c'est confortable de lier ça à une cause extérieure à lui, de savoir que puisque papa a ses horaires de travail-là le matin, il se permet de vous emmener à l'école. Et moi, le soir, je vais vous rechercher. C'est une habitude, c'est une certaine routine qui crée dans la tête de l'enfant une sécurité, une stabilité, un lien de renforcer l'attachement aussi, de savoir que quelqu'un va venir le chercher et en plus on sait quelle personne. Donc ça affine la notion d'attachement qu'on a vu dans l'épisode sur la séparation. Il y a aussi cette alternance dont je vous parle de temps en temps, notamment dans l'épisode sur l'apprentissage, entre ce qui est connu et ce qui est inconnu. L'enfant, dans ses découvertes, il va tout le temps balancer entre ce qu'il connaît déjà et ce qu'il ne connaît pas encore. Et le fait d'installer des habitudes, des routines ou des rituels, ça va lui permettre de créer des moments de sécurité, des moments de réconfort, en alternance avec les moments où il n'aura pas le contrôle de tout, au moment où il sera en nouveauté, en découverte, en challenge, en exploration. Donc dans sa journée, il va y avoir plusieurs moments où il va pouvoir se raccrocher à ses habitudes de travail, à ses routines, à ses rituels, et ça va lui alléger un peu la charge intellectuelle, la charge cognitive, la charge parfois affective. Ça veut dire que quand la routine est bien installée, quand le rituel est bien installé, on a moins à s'inquiéter de tout ce qu'on va risquer comme conséquence. Donc partant de là, on va essayer en temps réel de voir comment s'adapter aux deux arcs-en-ciel de l'enfant pour optimiser notre routine et notre rituel. On va essayer de voir quelles sont les émotions qui pourraient apparaître dans la cheminée en temps réel. Et la première étape pour créer la routine qui vous va, à la maison ou en classe, c'est d'observer l'état des deux personnes. Comment ils fonctionnent, à quel stade en sont chacune des rayures, quels sont ses besoins, quelles sont les activités qui iraient en lien avec ces besoins-là, quelles sont peut-être les activités qui vont aller bien avec ces émotions-là qu'on observe chez notre enfant ou chez notre élève, pour voir au mieux ce qui va aider à la fois l'enfant et l'adulte en fonction de son développement intellectuel dans le temps. La maturité dont je vous parlais dans l'épisode 43 sur l'apprentissage est essentielle pour adapter la bonne routine au bon âge. Si on crée une routine qui est en dehors de sa zone proximale de développement, donc sa zone d'apprentissage intellectuel et affectif, il va trouver ça trop difficile. Donc comme on cherchait quelque chose de confortable et de sécuritaire, on rate un peu notre cible. Si on met une bonne habitude et un bon rituel en fonction de sa maturité, il se sentira puissant, il se sentira fort, il se sentira en confiance avec le projet qu'on a avec lui. Et dans ce cas-là, ça aura beaucoup plus de bénéfices parce que la définition de notre routine, la définition de notre habitude va toucher juste sur sa maturité de compétences et de comportement. Donc le premier point pour installer la bonne routine, c'est l'observation de notre élève ou l'observation de notre enfant ou l'observation du groupe. Si vous visualisez ça dans le cadre d'un travail en crèche, une bonne routine va aider à la fois l'enfant à se sentir bien et à la fois va aider l'organisation du groupe à avancer avec un peu plus de fluidité. Donc je me réfère au développement moteur, je me réfère au développement sensoriel, je me réfère au développement émotionnel, pour favoriser une prise en main de cette action, une autonomie de sa part. Ensuite, quand j'ai vu ces deux éléments-là, de maturité et de développement, je vais voir comment réaménager l'espace et l'emploi du temps en fonction. Donc, pour un exemple très simple, si vous souhaitez installer une habitude de brossage des dents autonome, que votre enfant soit à même de pouvoir se brosser les dents à la fin du repas du soir par exemple, vous allez aménager l'espace en fonction de cette intention-là. Vous allez créer une petite table basse avec sa brosse à dents, son gobelet, avec la petite serviette pour s'essuyer, peut-être une bassine si vous souhaitez qu'il crache le dentifrice ou pas, suivant son âge, Il y a des dentifrices qui peuvent être avalés et d'autres, il vaut mieux éviter. Donc, suivant l'âge de votre enfant, cette mise en place de l'espace va baliser en fait le moment de la routine, le moment de l'habitude. Mais avant de mettre tout ça en amont, nous, on va réfléchir à pourquoi on le fait. Est-ce qu'il est capable de le faire seul? Est-ce que c'est trop difficile? Est-ce que c'est trop ambitieux ou pas? Donc, arriver un beau jour en décidant, alors à partir de maintenant, tu mettras tous tes habits dans le panier à linge, tu te brosseras les dents tout seul et tu feras ton lit tous les matins. Ça peut marcher si c'est la bonne observation de l'enfant, s'il est prêt, s'il est mûr, s'il est motivé. Et ça peut tomber complètement à plat si on n'est pas dans la maturité nécessaire à ce moment-là. Donc, une routine à la maison, une routine en classe se base d'abord sur l'observation de ses compétences actuelles et pas de ce qu'on aimerait un jour qu'il puisse faire tout seul. Parce que dans ce cas-là, on aimerait tous que nos enfants sachent tout faire très jeunes, tout seuls. Et là, je pense à mon ado et c'est encore pas le cas pour tous les domaines de compétences, notamment tout ce qui est autour du linge, du rangement et de l'alimentation. Ces routines ont été installées, il y a encore des couacs, mais l'intention est quand même là. Je referme la parenthèse sur mon ado. Quand on a réfléchi à cet aménagement et l'emploi du temps, donc on va essayer de voir si c'est trop nouveau, pas trop nouveau, si on en demande trop ou pas assez. Donc on va parler du dosage. Ce dosage, il est important pour que l'enfant ne se démotive pas. Je vous renvoie une fois de plus à l'épisode de la semaine dernière. Donc dans l'étape de l'apprentissage, il y a la motivation, il y a la curiosité, il y a l'engagement. Et puis, il y a aussi le moment où il va trouver ça compliqué et difficile. Donc, ce petit moment de découragement, c'est à nous, adultes, encadrants, accompagnants, de le pousser un petit peu pour voir s'il accepte le nouvel apprentissage et donc s'il se rend acteur de cette nouvelle routine, de ce nouveau rituel. Une fois de plus, si c'est nous qui l'imposons, si elle n'a pas de sens pour l'enfant, si elle n'a pas de sens pour l'élève, ça ne va pas accrocher aussi bien. Par contre, si vous sentez que votre enfant a bien compris l'histoire du linge-châle, a bien compris l'histoire de se brosser les dents avec sa nouvelle brosse Tom et Jerry, là, l'attention est là, l'engagement est là, c'est le bon moment pour installer une routine avec lui et faire une petite cérémonie de l'objet dont je vous parlais aussi dans l'épisode 43. Je vous laisserai aller l'écouter pour savoir de quoi il s'agit. Dans le dispositif de moins de 3 ans, on ne faisait qu'une seule nouveauté par jour. C'était finalement une sorte de rituel pour certaines petites filles notamment, qui savaient que je fonctionnais comme ça, que mon habitude c'était d'installer une nouveauté par jour. Et elles pouvaient arriver dès le matin en me disant « Alors, c'est quoi le nouveau jeu? On va faire quoi de nouveau aujourd'hui ?» Parce que pour elles, c'était un défi et un challenge de trouver quelle était la nouveauté du jour. Et en ça, ça challenge bien leur rayure d'autonomie, ça challenge bien aussi leur rayure de défi, hein, donc de détente et de dépassement de soi à la fois. Et pour mettre à jour leur base de données, quand il y a un groupe, c'est un peu plus compliqué parce qu'ils n'avancent pas tous au même rythme, mais pour certains, c'est le bon moment pour installer peut-être une nouvelle habitude et une nouvelle routine de travail ou de comportement. On va éviter de faire tous les domaines en même temps. On va peut-être rester dans une seule zone précisément. Donc si vous voulez axer une habitude autour du repas, vous allez d'abord vous concentrer vraiment sur ce rituel-là, de ne pas changer tous les rituels en même temps. Donc prenez un thème qui vous est cher là, ce mois-ci, et commencez par une habitude autour du repas, une habitude autour du coucher, une habitude autour du brossage de dents ou du panier de linge, mais une seule à la fois, le temps qu'elle s'installe, le temps qu'elle soit intégrée dans le fonctionnement du cerveau, dans la base de données du cerveau. Et là, je revois l'image que je vous donnais la semaine dernière sur les bâtonnets Smart Max qui s'accrochent les uns aux autres. Donc, le temps que les bâtonnets soient bien accrochés aux références de son cerveau à lui, ça va mettre une pratique. Alors, la légende dit un peu plus de 21 jours, mais chez les enfants, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de répétitions afin que l'habitude soit prise et qu'il n'y ait plus besoin de réfléchir à chaque geste, que l'habitude soit suffisamment ancrée. Donc l'idée, c'est d'apprivoiser un petit peu la nouvelle activité, la nouvelle action avec lui pour qu'elle soit moins difficile à comprendre, qu'il y ait moins d'imprévus. Et puis nous, ça nous permet aussi d'organiser peut-être la maison différemment, d'inverser peut-être dans l'emploi du temps l'heure du bain avec l'heure de la lessive ou l'heure du repas avec l'heure de la promenade. Tout ça est mobile, tout ça est à votre loisir de créativité, de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, que ce soit de vous à votre partenaire, que ce soit de vous à votre enfant, ou même que ce soit de vous à vous, parce que vous aviez peut-être vu dans le Challenge Fly Lady, hein, qui est une organisatrice au départ de rangement et de ménage et qui va après sur le thème du développement personnel, je vous expliquais que sa méthodologie de prendre des routines pour soi et de prendre des routines sur du lever jusqu'au départ au travail ou du retour du travail jusqu'au coucher, permet en fait d'affiner vraiment notre gestion du temps, au sens je ne perds plus de temps à décider ce qui est le meilleur pour moi à cet instant-là et dans quel ordre je le fais, pour préserver justement mon temps libre. Et dans mon temps libre, je choisirai les activités qui nourrissent le plus mes besoins. Donc là, je vous fais un mix entre ce que j'avais compris de Martha Sillet, l'auteur de Fly Lady, et tout ce que je développe avec mes outils-là. Pour avoir du temps libre de qualité et faire des tequils, il faut bien à un moment que nos routines soient stables, établies et surtout efficaces au niveau temps, pour qu'on ne perde pas encore plus de temps à se battre contre l'habitude et contre la routine, ce qui serait vraiment contre-productif. Si vous voyez que la routine que vous avez installée pour le coucher ne fonctionne pas, à un moment donné, vous allez la remettre en question et vous dire, bon, soit c'est l'âge de l'enfant qui n'est pas compatible, soit c'est l'ordre des activités qui ne va pas avec ce que je croyais possible. Donc vous allez remettre en question la routine et vous n'allez pas remettre en question l'enfant. L'enfant, chaque jour, fait des découvertes, fait des liens, fait des connexions entre ses connaissances et peut-être que la routine qu'on avait choisie initialement n'est pas encore adaptée. Et vous allez trouver la bonne routine avec beaucoup d'observations et avec des essais, des erreurs, des réajustements. C'est ce qu'on va voir aussi dans le développement d'une fonction exécutive. Donc dans l'épisode 46, je crois, qui est prévu, les fonctions exécutives. Donc de prendre le temps d'ajuster à chaque fois les effets de nos actions, les conséquences de nos actions avec notre intention initiale. Pour l'enfant, il est important aussi de rappeler cette notion d'énergie. Quand on lui demande un nouveau geste ou une nouvelle compétence ou une suite d'actions, ça va lui demander au début beaucoup d'énergie de faire les actions séparément. Mais plus on va mettre de sens dans ces actions-là, plus ça va être logique de faire d'abord j'enlève mes chaussures en rentrant dans la maison, ensuite je range mes chaussures, ensuite je pose mon manteau, ensuite je range mon cartable. Si ça a du sens pour lui, vous n'aurez plus besoin ensuite ni de lui réexpliquer à chaque fois, une fois passé hein, le côté engrammé de l'habitude ou du rituel, et plus ça aura de sens pour lui, plus il le fera volontiers de façon autonome. Si ça n'a pas de sens pour lui de mettre les chaussures à cet endroit-là ou de mettre le manteau à cet endroit-là ou de se laver les mains avant de manger, il y a moins de chances qu'il le fasse spontanément puisqu'il n'aura pas compris vraiment pourquoi on lui demande cette action. Donc repartez le plus souvent possible vers de la cohérence, hein, vers l'épisode 11, la cohérence de pourquoi on fait cette action-là. Quelle est notre intention? Quel besoin ça nourrit sur notre arc-en-ciel de besoins, sur l'épisode 7, puisque l'installation d'une routine est à la base pour nourrir plusieurs besoins à la fois. Le besoin de rythme adapté, le besoin de cohérence, le besoin d'intégrité peut-être, que chacun ait aussi du temps dans la salle de bain, que chacun ait aussi du temps dans la salle de jeu. L'idée de justice, l'idée d'organisation, l'idée aussi de détente et de calme. Tous ces besoins peuvent être nourris à travers l'installation dans la maison ou dans la classe d'une routine d'activité, d'une routine de travail ou d'une habitude autour du repas, du sommeil. Ça pourrait être par exemple votre deuxième garçon qui s'occupe chaque soir de mettre la table parce que pour lui ça a du sens, il révise ses quantités, il se sent valorisé par cette tâche-là. Alors que votre premier garçon, lui, va s'occuper du jardinage peut-être. Tous les dimanches, c'est lui qui va ramasser les feuilles. Donc de créer une routine ou une habitude qui fait sens pour votre enfant, qui fait sens pour vous aussi et qui ne soit pas hors de portée de ses compétences actuelles ou de ses aptitudes actuelles, de ce qu'il est capable d'agir sans forcer, sans lutter, sans que ça lui demande une dépense d'énergie considérable. Je vais vous donner un petit exemple qu'on avait fait en dispositif des moins de 3 ans. On nous avait demandé de réfléchir à une situation problème avec des enfants jeunes et j'avais présenté au conseiller pédagogique la situation de l'anniversaire. Les deux premiers mois, on a fêté quelques anniversaires, donc ils fêtaient généralement leurs 2 ans à la maison et puis ensuite quand ils arrivaient en classe, ils fêtaient leurs 3 ans. Et donc les premiers enfants qui avaient eu 3 ans, on avait installé l'idée que pour manger le gâteau tous ensemble, il fallait avoir assez de place. Il fallait un grand espace, donc une grande table. Et petit à petit, je leur demandais de participer à l'installation de la table d'anniversaire, comme beaucoup le font dans leur classe de maternelle. Et petit à petit, donc le premier anniversaire, c'est beaucoup moi qui ai expliqué que pour avoir une grande table, il fallait rapprocher les tables qui étaient dans la classe, donc créer un nouvel espace table avec des éléments différents. Ensuite, pour que tout le monde puisse manger en même temps, il fallait rapprocher toutes les chaises autour de ces tables-là, qu'il y ait assez de chaises pour tous les enfants. Donc là, on part dans des domaines mathématiques, dans des domaines logiques et numériques. Donc c'est une compréhension du monde qui fait sens pour les enfants, parce qu'ils comprennent que s'il y a assez de chaises, eh ben, ils pourront eux-mêmes s'asseoir et manger le gâteau d'anniversaire. Donc tout ça, ça fait vraiment sens. Et une fois que tout le monde est assis, il y a la même notion pour le nombre d'assiettes, le nombre de cuillères, le nombre de verres, etc. jusqu'à ce qu'on puisse chanter, souffler les bougies et manger le gâteau. Mais c'est cette petite démarche initiale de pour fêter un anniversaire et que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est l'intention de l'adulte. L'enfant ne voit pas tout de suite l'intention de l'adulte. Lui, dans son petit regard égocentré, il dit « moi, je veux manger du gâteau ». Donc on essaye de raccrocher l'intention de l'adulte et l'intention de l'enfant sur une habitude, sur un rituel d'anniversaire. Et quand les conseillers pédagogiques sont arrivés, donc on était plus avancés dans l'année, on était au mois d'avril, et que je leur ai dit « ah bah vous tombez bien, aujourd'hui il y a un anniversaire, d'ailleurs tout à l'heure je vous montrerai la routine d'anniversaire qu'on a dans la classe ». Et au moment où j'ai mis la petite musique pour ranger, et que j'ai annoncé aux élèves de ma classe qu'on allait commencer l'anniversaire du petit garçon en question, eh bien, il y a tous mes petits lutins là qui se sont activés à vider les tables, à les rapprocher l'une de l'autre, à aller chercher toutes les chaises et à installer toutes les chaises autour de la table. Je n'ai rien dit du tout, si ce n'est on va installer pour faire l'anniversaire du prénom du petit garçon. Et du coup, les conseillers pédagogiques ont observé à quel point la routine anniversaire avait pris sens dans l'esprit des élèves, dans le cerveau des enfants, qui se disent pour arriver à manger du gâteau de manière à ce que tout le monde ait vraiment son assiette, sa part et ait le gâteau dans la bouche, il y a toutes ces sous-étapes-là, il y a toutes ces petites actions à mettre en place avant. Donc on est dans un panachage entre les notions que je vous partageais sur comment l'enfant apprend, parce que tout ça, ils l'ont construit en répétition, en habitude, en mettant du sens à chaque étape de la routine anniversaire, jusqu'à l'avoir tellement intégré, jusqu'à en être tellement imprégné, qu'ils sont maintenant capables de la réaliser tout seuls en y mettant du sens. Et de voir toutes les petites fourmis s'activer autour des tables et des chaises sans avoir besoin de leur dire pourquoi ils font ça, comment ils font ça, pourquoi ils ont choisi cet espace-là pour mettre les tables parce que c'est l'espace où il y a le carrelage et c'est plus facile à nettoyer qu'au milieu de la classe quand on a un gâteau d'anniversaire, hein, vous savez ça sans doute, quand on fait un gâteau d'anniversaire en classe, il y a quand même un peu de dégâts après un gâteau d'anniversaire. Donc, on avait choisi dès le début de mettre toutes les tables sur le coin du carrelage. Et ça faisait tellement sens pour ces enfants que je n'avais plus besoin de dire où on met les tables, combien on met de chaises, comment on fait pour vérifier, pourquoi on fait ça. Donc, cette idée de routine, cette idée d'habitude, cette idée de rituel que vous le preniez en cas personnel à la maison, en crèche ou à l'école, elle doit faire sens dans l'intention finale. Elle doit faire sens pour l'enfant de pourquoi on fait ça, au fait, pourquoi on dépense cette énergie, dans quel but, dans quelle intention finale. Et c'est tellement gratifiant pour moi de voir à quel point ils ont compris que c'était pas pour faire plaisir au petit enfant qui va souffler ses bougies. C'est pour vivre ce moment ensemble, c'est pour faire ce tequila ensemble qu'on met en place la routine anniversaire. Et il y avait même une petite fille qui allait chercher le tissu sur le côté de la classe. Elle avait vu où est-ce que je l'avais rangé. Et sur ce tissu, il y avait des bougies qui étaient scratchées. Et donc, on sortait le tissu à chaque anniversaire pour dire « c'est le rituel anniversaire ». Les enfants sont très friands d'habitude de ce genre. Les enfants sont très rassurés par le côté logique, par le côté « je ne fais pas ça de manière irrationnelle ». Toutes ces petites actions ont vraiment une utilité, ont vraiment un sens, et ça leur paraît logique. Et ce qui est logique pour un enfant est rassurant, de la même manière que je vous explique souvent dans les rooms, qu'un enfant, tant que ça tombe, il va vérifier si ça tombe vraiment. Il va réessayer plusieurs fois pour voir si vraiment c'est logique. Et là, ils vont essayer plusieurs fois. Ils vont se dire « ah ben non, il n'y a pas assez de chaises ». Ah ben non, la table est trop petite, on va en chercher une autre. Et c'est ce côté-là qu'on cherche à éveiller chez des enfants jeunes. Enfin, en tout cas, moi, c'était ma mission de me dire, si je leur apprends à réfléchir de manière autonome et à exercer leur sens critique et à ajuster leurs actions pour aboutir à leur projet initial, j'aurais sans doute plus gagné que certaines compétences qu'on me demande de cocher sur leur bulletin. Ça n'engage que moi, je ne suis plus dans l'éducation nationale. Mais en tout cas, c'était vraiment une de mes priorités de mettre du sens et de la cohérence sur ce que j'enseignais à ces petits bouts de 3 ans. Donc pour en revenir à une routine, vous avez vu que la notion de développement de l'enfant, l'observation, le sens qu'on met à cette habitude et nous se dire que si on fait cette habitude-là, ça va alléger aussi la pression ambiante, ça va alléger les tensions, le doute, le stress, peut-être la frustration, voire pour certains la colère de ne pas comprendre pourquoi on bouge les tables, de ne pas comprendre pourquoi il faut aller se coucher, de mettre à chaque étape de vie, à chaque étape de l'habitude, de la routine, un sens concret qui favorise une énergie concentrée, un focus en fait sur ce qu'on fait, et aussi qui permet d'apaiser les émotions, les flammes, et qui rassemble tout le monde autour de ce rituel, qui rassemble autour de cette comptine par exemple, de cette chanson, de ce moment de sport, de ce moment de relaxation à la fin de la séance de motricité. Les professeurs et en crèche ont tous des routines et des habitudes différentes. Pour certains, à la fin d'une séance de motricité, on fait une chanson. Pour certains, à la fin d'une récréation, on fait un petit rituel de respiration. Ça dépend de chacun, mais c'est le sens qu'on y met derrière qui est le plus important. Si les enfants sentent que l'adulte met une intention et une logique derrière, ils seront plus à même non seulement de la comprendre et de la suivre, mais aussi de se dire « je vais mettre ça dans ma base de données ». Ça m'intéresse, ça me fait me sentir bien, je comprends pourquoi on le fait. Mettons ça comme élément intéressant à creuser plus tard quand je serai autonome, adulte, indépendant. Donc on leur donne jour après jour des habitudes de fonctionnement, une certaine méthodologie pour quand ils seront grands, quand ils seront dans leur studio, quand ils seront dans leur première entreprise, qu'ils aient des habitudes cohérentes et qu'ils se créent eux-mêmes des propres routines, des propres rituels qui leur servent à eux. Je vois toujours très loin, hein. J'avoue que je ne vois pas que des enfants de 3 ans quand je travaille en classe. Je voyais des futurs citoyens, je voyais des futurs salariés, entrepreneurs, je voyais des futures relations se dessiner. Et je me dis, plus je leur donne de clés cette année pour conscientiser leur raison de faire des actions, pour leur montrer qu'à chaque action, ça nourrit un de ses besoins et qu'à chaque action, ça peut soit améliorer sa vie, soit lui créer des choses désagréables dans son ressenti, en fait, dans son vécu, dans sa cheminée des émotions. J'aurais gagné, en fait. Si je le rends autonome là-dessus, si je le rends conscient de ça, je fais ma tâche entièrement. Même si j'ai envie de le dire quand même, ce n'était pas dans les programmes. Je referme la parenthèse, vous connaissez ma position sur tout ça. Donc cette notion de tequil pour dégager du temps libre, cette notion de faire en famille des choses qui peut-être de prime abord paraissent un peu étonnantes parce que les premières fois où je postais des stories où je montrais Siana en train de m'aider à étendre le linge, ou les premières fois qu'en continuité pédagogique je proposais aux mamans de dire d'arroser les plantes avec les enfants, tout ça c'est des petites routines à mettre en place qui sont hyper faciles en fait et les enfants comprennent très très bien. De se dire, ah bah écoute, là, la plante, on dirait qu'elle a un peu soif, est-ce que tu veux t'en occuper? Et voilà, on peut décider que le dimanche matin, on donne à boire à toutes les plantes de la maison, elles aussi, elles ont soif, on soigne notre maison, on soigne notre foyer, on lui donne un côté agréable, les plantes ont besoin d'eau, on leur donne. Et l'enfant se sent intégré en fait dans cette routine. Ça n'a l'air de rien pour nous parce que on voit ça toujours comme une liste de tâches à cocher, on voit ça comme une to-do list. Mais en fait, l'enfant qui tient la bouteille d'eau pour aller donner de l'eau à la plante, mais il se sent comme le roi du monde. Parce que sa tâche est valorisée, parce que sa tâche a un sens, et il est responsable de ce métier, de cette tâche. D'ailleurs, en maternelle, vous avez sans doute observé ça, il y a souvent un tableau des métiers ou un tableau des responsables, et ça marche très très bien en grande section notamment, parce que vraiment les enfants ont à cœur d'être le responsable du rang, le responsable de distribution des cahiers d'écriture et tout ça. Ils se sentent vraiment valorisés par cette habitude qu'on peut tenir un rôle, un métier. Et c'est tellement important pour la suite aussi. Dans la notion de responsabilité notamment, notre responsabilité est liée à tel ou tel mouvement, telle ou telle attitude, tel ou tel comportement. C'est-à-dire que quand on est chef de rang, ben on doit regarder si tout le monde est là, on doit regarder si on ne fait pas trop de bruit, on se met sur le côté s'il y a une classe qui passe. C'est une responsabilité, c'est une sorte d'autonomie et une sorte de valorisation. Donc se sentir responsable, d'une certaine manière, c'est se sentir aussi grandir, autonome, un peu comme dans l'épisode 23. Je vous laisserai réécouter cet épisode s'il vous paraît lointain. Quand on a créé tous ces petits tequils avec les enfants qui se sentent en réussite, qui se sentent au service d'un collectif, et dans la notion de collectif, hein, je vous renvoie aussi sur tous les besoins qui sont dans la rayure indigo, de coopération, de collaboration, de codépendance dans le bon sens du terme, dans le sens que mes actions peuvent avoir des conséquences sur ta vie, aussi bien que tes actions peuvent avoir des bonnes conséquences sur ma propre vie. On peut développer très tôt l'idée que mes petites parts d'action ont un bon effet sur la vie du groupe, de la crèche, de la classe et tout ça. Et je pense que vous le faites déjà à la maison quand il y a le petit qui dort. Vous dites peut-être souvent au grand, bah écoute, on va parler doucement. On va parler doucement parce que ta sœur, elle dort. Et comme le sommeil, c'est important pour ta sœur, on va respecter tout ça. Et en fait, ce sont des micro-habitudes, des micro-rituels à tous les moments de la journée où l'enfant tire des fils de raisonnement en disant, alors, quand il pleut, j'ai compris qu'on mettait plutôt cette paire de chaussures-là parce que sinon, après, on avait les pieds mouillés, c'est désagréable et tout ça. Il en fait un fil dans sa tête, un fil d'habitude, un fil de rituel, un fil de routine. Quand, par exemple, le dimanche matin, un dimanche par mois, vous avez une sortie au parc et tout ça, l'enfant va pouvoir se construire dans le temps en disant « c'était pas dimanche dernier, est-ce que c'est ce dimanche-là qu'on va au parc ?» Donc, c'est aussi un support pour se repérer dans le calendrier soit de la semaine s'il est petit, soit du mois s'il commence à être un peu plus grand, soit de l'année même s'il est déjà en élémentaire. Donc à vous de placer les routines dans un cadre temporel. Donc ça peut être une routine de repas, elle se représente peut-être 4 fois dans la journée s'il est à la maison. Une routine de sommeil, il y a peut-être la routine pour la sieste, la routine pour le soir. Donc vous avez dans votre journée plein d'opportunités de créer des habitudes, de créer des rituels, de créer des routines qui vont aider l'enfant non seulement à se sentir bien, à l'aise, et qui vont lui permettre de structurer de mieux en mieux sa compréhension du temps. Toutes les routines et les habitudes que vous allez créer vont renforcer cette notion d'attachement, vont renforcer cette notion que vous serez toujours là pour lui et pour trouver une solution à son problème, parce que ces routines-là lui allègent vraiment, vraiment beaucoup de charge mentale. Il va se référer à ça comme des choses qu'il connaît, ça va le rassurer, et même si un jour vous n'êtes pas là, il y a de grandes chances qu'il mette en place quand même cette routine, qu'il mette en place quand même ce rituel en se disant « c'est ce que je fais d'habitude avec papa, c'est ce que je fais d'habitude avec maman ». Et par exemple en colonie, on voit ça aussi, il y a des enfants qui se recréent des petites habitudes le soir ou à la sieste ou au repas pour faire comme ils font à la maison alors que les parents ne sont pas là. Donc il va transférer ses habitudes d'un lieu à l'autre. Vous le voyez peut-être aussi quand ils vont chez les grands-parents. Ben, chez les grands-parents, il y a d'autres habitudes. Donc des fois, il y a un petit point de friction entre ce que je fais d'habitude à la maison et ce qui se fait chez tata ou chez la grand-mère. Et puis en grandissant, les enfants vont trier, ils vont se dire « Ah oui, c'est pas les mêmes habitudes chez chacun. Chez mamie, on met les chaussons. Chez tata, ça sent un peu plus les bougies parce qu'elle met des bougies partout. » Donc choisissez aussi de voir l'habitude comme une diversité culturelle peut-être, une diversité liée au choix de chaque famille de prioriser tel ou tel point. C'est un point de départ, une habitude, c'est pas immuable. Vous allez peut-être la faire évoluer au fil du temps. Je pense que la plupart de vos habitudes vont évoluer avec l'âge de l'enfant. Et même de vous à vous, vous allez faire évoluer vos routines en fonction d'un réaménagement professionnel, en fonction d'une nouveauté dans la famille. Peut-être que le travail a changé de localisation. Peut-être qu'il y a un nouvel enfant dans la famille. À chaque fois, les routines, les habituels, les routines, les habitudes et les rituels vont être mis à jour, vont être optimisés en fait, et vous allez pouvoir recréer la meilleure version du rituel ou de la routine, celle qui vous correspond à vous. Je tenais à ce point-là aussi parce que depuis que je suis sur Instagram, je vois quand même beaucoup de personnes qui donnent du clé en main. Des programmes sur le sommeil, des programmes sur l'alimentation. Alors, bien entendu, je pense qu'il y en a vraiment qui sont de fort qualité, mais j'espère que la plupart de ces programmes vous permettent de vous rendre justement autonome et responsable sur la création de ces propres routines-là de sommeil et sur la création de ces propres routines-là autour des sujets qui vous sont chers. Il n'y a pas de formule magique, que ce soit dans l'installation d'habitudes de travail, l'installation d'habitude pour le rangement, le ménage, c'est vous qui allez trouver la bonne organisation pour vous. On va pouvoir vous donner des conseils de nos lectures, de nos formations, de nos vécus aussi, puisque tout ce que je vous transmets, c'est quelque chose que j'ai imprégné en classe, c'est quelque chose que j'ai pratiqué à la maison, que j'ai pratiqué avec mes filles, que j'ai pratiqué aussi dans mes logements, dans mon couple et tout ça. Mais on ne pourra pas le faire à votre place puisque votre vie est différente de la nôtre. Donc prenez toutes ces pistes-là, prenez tous les programmes que vous voyez comme des petites briques de Lego. Et avec toutes ces briques de Lego, vous allez créer votre routine de famille, votre organisation du week-end, votre organisation des vacances. En vacances, on peut créer des routines différentes. Chez papy, on peut créer des routines différentes. Mais mettez à la fois de l'observation de la maturité des enfants, beaucoup de patience pour l'intégrer, cette routine, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs répétitions, et puis faites-la évoluer dès qu'elle n'est plus au service de votre intention initiale. Pour lui donner vraiment des outils qui évitent aussi les flammes désagréables et les flammes de peur, j'avais noté sur ma petite liste de choses à vous dire dans cet épisode que le fait de s'appuyer sur ces routines-là, donc quand il sera seul ou quand il sera un petit peu en stress, va lui faire une base de sécurité importante, va lui faire comme une bûche de nuit dans sa cheminée, à savoir que il aura ce socle-là, ce sera ancré en lui et il pourra le modifier s'il le veut, mais il aura déjà une base de travail, il aura déjà une habitude et une méthodologie qui pourra justement lui servir si un jour il est dans une situation inconfortable, si un jour il est dans une situation inédite, il aura qu'à ouvrir ce fichier du « alors, quand il m'arrive ça et que je suis à la maison, qu'est-ce qu'on met en place ?»« Quand il m'arrive ça et que je n'ai pas d'adulte autour de moi, qu'est-ce que je mets en place. Donc, en créant des explications vraiment cohérentes du sens, des habitudes, des rituels, vous lui permettez d'avoir un sac dans lequel piocher le jour où il y aura plus de nouveautés que prévu, plus de flammes de peur que prévu, peut-être une flamme de doute, de tristesse, ou le jour où sa cheminée sera vraiment très activée, il se plongera, potentiellement, votre enfant, dans ses bûches de nuit en se disant « Ok, j'ai une base quelque part, je vais la trouver. Qu'est-ce que me dirait maman dans cette situation? Qu'est-ce que me dirait la maîtresse dans cette situation? Qu'est-ce que me dirait la nounou dans cette situation ?» De piocher en lui des références, de piocher en lui des moments bien intégrés sur lesquels s'appuyer, des bases, un socle. Prenez le mot qui vous parle le plus. Et ce socle, cette puissance intérieure, elle lui permettra d'affronter n'importe quelle épreuve, elle lui permettra de renforcer sa rayure d'identité. C'est sûrement quelque chose qu'on aurait aimé beaucoup avoir, d'avoir des habitudes vraiment stables, vraiment fixes. Je ne dis pas qu'il faut être vraiment millimétré sur notre chronologie et sur notre logistique familiale, mais certaines habitudes conditionnent une souplesse parce qu'elles libèrent du temps d'imagination, du temps d'ennui, du temps de créativité qui sont plus durs si il faut sans cesse répondre à l'urgence tout le temps, de l'urgence de la nouveauté, de l'urgence de la nouveauté. Il y a des enfants qui auraient plus vivé ça très régulièrement dans leur vie. C'était toujours différent d'un jour à l'autre. Un jour c'était papa, un jour mamie, un jour la grande sœur, un jour la cousine, un jour tu dors chez tata, un jour tu dors à l'autre bout. Il y a le droit de garde qui change, les vacances qui changent. En fait, ces enfants-là avaient parfois peu de repères, peu d'habitudes, peu de routines. Donc c'est pas une notion de jugement, c'est juste qu'à ces enfants-là, je pouvais difficilement leur demander de s'intéresser à quelque chose d'autre en classe, puisque ça, en tâche de fond, dans leur cerveau, il y avait déjà beaucoup de questionnements, il y avait déjà beaucoup de doutes sur pourquoi ce matin c'était pas maman, pourquoi ce soir on m'a dit que je restais à la garderie, d'habitude je reste pas à la garderie. Donc cette notion de l'imprévu, elle est salutaire. Il y a de l'imprévu dans la vie, mais l'imprévu est d'autant plus facile à appréhender qu'on a quand même certaines bases solides d'habitude et de routine. Donc j'espère que je suis restée vraiment dans ce sujet que je voulais un petit peu concis, hein, qui n'est jamais aussi concis que je voudrais, mais je fais de mon mieux pour essayer d'être concise. Et vous excuserez mes embardées un peu philosophiques de temps en temps. Et c'est de toute façon, même nous, hein, si on prend nos habitudes et nos routines, on voit bien que la réalité vient balancer une petite boule de bowling de temps en temps sur nos habitudes et nos routines, et que des fois on fait passer un dossier avant l'autre en se disant « bon, bah, c'est pas mon habitude, mais ce samedi, je vais travailler pour boucler ça, ou c'est pas mon habitude, mais je vais dire non à ma copine, je la verrai pas ce soir, parce que finalement, je sais que c'est important nos rendez-vous de la semaine, mais je ne peux pas faire autrement. » Donc les routines ne sont pas faites pour être immuables, les habitudes ne sont pas faites pour être immuables, mais elles sont là pour sécuriser l'organisation du temps et sécuriser vraiment l'organisation du monde intérieur qui est en train de devenir de plus en plus clair pour l'enfant, de plus en plus explicite, on va dire, parce qu'au début, le monde paraît vraiment incohérent et flou. Et dans leur perception, quand ils grandissent, ils voient des éléments de plus en plus précis et ils vont remettre en question ces habitudes, ils vont remettre en question certaines. Et puis pour d'autres, ils y reviendront. Hein. Si vous voyez, quand les fêtes sont là, on a des habitudes qu'on met en place avec les enfants, qu'ils adorent et qu'ils nous répètent chaque année en disant « Ah, on fait comme l'année dernière, on va à la patinoire, ou on fait comme l'année dernière. » Ces habitudes-là ont du sens pour eux. Il y a eu un vrai moment de plaisir, il y a eu peut-être un moment de tequila où vraiment les besoins de tout le monde ont été nourris. Et on peut se baser là-dessus, sur ces habitudes-là, pour créer du lien, pour créer de la cohésion, pour créer des jolis souvenirs aussi. Donc je serais très curieuse que vous me disiez quelles sont les habitudes et les routines que vous faites en famille. Ça peut être des routines vraiment autour des fonctions vitales, hein, et puis ça peut être aussi des routines de joie, de voyage, où à chaque début de vacances, vous allez visiter un zoo, ou chaque début de vacances, vous allez nager alors que les valises ne sont pas défaites. Des petits signes, des petits mythes personnels en fait dans votre famille qui vous font vous sentir vivant, unique, créatif et qui nourrissent toutes vos arcs-en-ciel de besoins. Voilà, merci pour votre écoute. Je vous invite à me retrouver sur les réseaux Clubhouse, Instagram, Facebook, à cliquer sur les posts des carousels pour en savoir plus sur les outils que je vous présente. Et puis, si l'idée vous en dit d'apaiser vos émotions et de libérer votre temps, le programme Emotizen va ouvrir en mars. Les ventes donc auront lieu du 3 au 6 mars. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de toute cette période de lancement si vous voulez être dans les premiers à travailler avec moi sur vos émotions. Je serai ravie de vous accompagner autour de tout ça. Petite liste d'étoiles sur Spotify et Apple Podcasts si vous avez quelques minutes à y consacrer. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.